Voilà, nous reprenons donc notre étude sur les valeurs et les vertus chrétiennes. Le mois dernier, nous avons parlé sur la tolérance, en relation aussi avec les éléments de notre actualité. Et aujourd'hui, je vous propose de dire quelques mots et de réfléchir ensemble à la question de l'humilité. L'humilité comme valeur, l'humilité comme vertu chrétienne. Et nous allons faire trois lectures de la Bible. On aurait pu en faire beaucoup, mais j'en ai choisi trois. La première se trouve dans le livre de Michée, au chapitre 6, un verset bien connu, Michée 6, le verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Un deuxième texte se trouve dans le prophète Sophonie, un peu plus loin, chapitre 2, au verset 3. C'est une invitation que Dieu adresse à son peuple. Sophonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre qui exécutez sa volonté. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Et le troisième texte se trouve dans Romains au chapitre 12, le verset 16. Romains 12, verset 16, et vous verrez qu'il est encore question de l'humilité. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Voici donc les textes bibliques que nous lisons qui nous servent de point de départ. L'humilité. Quand on fait des lectures sur le thème de l'humilité, on fait vite une découverte assez saisissante. C'est-à-dire que autant l'humilité semble problématique à bien des penseurs, autant elle coule de source lorsqu'on est dans la pensée biblique. C'est un contraste assez saisissant. C'est assez remarquable de voir cela. Cela montre en tout cas que l'humilité fait partie vraiment des valeurs et des vertus chrétiennes. Lorsque nous fêtons Noël et la venue du Seigneur dans notre humanité, nous sommes tout émerveillés devant l'humilité de la condition qu'a revêtue le Fils éternel lorsqu'il est venu vers nous. Son abaissement, son humilité représente un mystère qui nous éblouit et qui nous chavire à chaque fois que nous le méditons. Lorsque nous voyons ensuite ce Seigneur se mettre au service de tous, lui qui aurait eu toutes les raisons et toutes les possibilités de manifester sa puissance, sa supériorité, nous sommes là aussi saisis d'émerveillement, saisis de vertige. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, disait Jésus. C'est renversant. Lorsque très concrètement, nous voyons ensuite Jésus s'abaisser, laver les pieds de ses disciples qui se demandaient entre eux lequel est le plus grand et qui voulaient rien faire. Là encore, l'admiration nous saisit. Et lorsque nous mesurons que dans cet abaissement, le Christ, en se faisant serviteur, disait là vraiment tout le sens de sa venue et annonçait la croix où il s'abaisserait jusqu'au point où il prendrait sur lui nos péchés pour nous en délivrer, on se rend compte là encore que l'humilité du Christ, cette humilité consentie, cette humilité choisie, est quelque chose de sublime, une vertu admirable, une vertu bouleversante. Alors certes, lorsque l'on pense à l'humilité de Jésus, il ne s'agit pas de l'humilité seule. Jésus nous montre l'humilité associée au don de soi, associé au service de l'autre, associé à l'amour de l'autre. C'est l'humilité pour aimer l'autre n'empêche en Jésus, c'est bien dans l'humilité que nous découvrons l'amour sublime. Jésus n'a pas eu pour nous un amour héroïque, il a eu un amour dans l'humilité. Et c'est là, dans le fait qu'il se soit fait humble, petit, qu'il manifeste sa puissance, la beauté de son amour, au cœur de cette humilité même. Et c'est cela qui donne ces lettres de noblesse à l'humilité pour un chrétien. C'est ce qui en fait une valeur absolument inestimable, incontestable. Nier la valeur, nier la beauté de l'humilité, c'est nier ce que le Christ nous a apporté de plus beau. On peut donc dire que l'humilité est au centre des vertus chrétiennes parce qu'elle a été le centre et le cœur de l'attitude de Jésus. « Je suis doux et humble de cœur », pouvait dire le Seigneur, en toute vérité. Et toute sa vie, toutes ses attitudes l'ont montré. Et si nous chérissons l'humilité, c'est parce que nous chérissons le Christ. Si nous admirons la grandeur de l'humilité, c'est parce que nous l'admirons en Jésus. L'humilité est donc une vertu chrétienne centrale. Mais si en Jésus tout est clair, il faut bien voir que hors de la référence à Jésus, l'humilité ne fait pas du tout l'unanimité. Elle ne fait pas du tout l'unanimité. Et on la considère beaucoup plus comme quelque chose de problématique que comme une vertu évidente. Et j'aimerais juste dire quelques éléments, quelques aspects par lesquels, autour de nous, aujourd'hui, on considère que l'humilité est quelque chose de problématique. Le premier problème qu'on a avec l'humilité, c'est que bien des gens disent « il faut donner préférence à la force ». Il faut donner préférence à la force plutôt qu'à l'humilité. Certains font vraiment le choix de la force et de l'affirmation de soi et disent que la force, l'affirmation de soi, ce sont ça les valeurs suprêmes. Ce sont cela les valeurs vitales. L'opposant le plus virulent contre l'humilité a été le philosophe Nietzsche. Que dit ce philosophe? Il dit « il existe deux morales ». Il y a la morale des maîtres et la morale des esclaves. C'est assez net, assez radical. La morale des maîtres, de ceux qui sont appelés à dominer, cette morale se traduit par l'affirmation de soi, par la force, l'affirmation de foi, de soi, l'affirmation de sa puissance. Cette morale des maîtres honore en soi l'homme puissant, l'homme qui a le pouvoir. Alors le pouvoir sur les autres, mais aussi le pouvoir sur lui-même. L'homme qui sait parler et se taire. L'homme qui prend plaisir à exercer même contre lui-même sa sévérité et sa dureté parce qu'il respecte tout ce qui est sévère et tout ce qui est dur. Je cite ici Nietzsche dans ce qu'il dit. Vous voyez, c'est cette idée que la morale des forts doit s'affirmer et l'homme qui est dans les principes de la vie est quelqu'un qui vraiment s'affirme de cette façon-là et qui fait de cela ses valeurs. Morale des maîtres d'un côté, et de l'autre côté, dit-il, il y a la morale des esclaves. Et c'est quoi la morale des esclaves? C'est la morale de ceux qui se conduisent, c'est la morale que se construisent, des gens qui sont des êtres brimés, des gens qui n'ont pas de pouvoir, des gens qui sont incertains d'eux-mêmes et qui sont dépendants. Quelle valeur se donnent ces gens-là? Ces gens-là se donnent les seules valeurs qu'ils peuvent imaginer dans leurs conditions de dépendance et dans leurs conditions de faiblesse. Et aussi, ils se donnent des valeurs qui leur permettent de vivre un petit peu mieux dans cette situation de faiblesse. Alors, on valorise quoi? Quand on ne peut rien faire d'autre, quand on ne connaît rien d'autre, on valorise la pitié, on valorise l'esprit de serviabilité, l'altruisme, l'affection, la patience et l'humilité. Et la morale des esclaves, parce qu'ils sont là dans cet univers où ils n'ont pas beaucoup de force et où ils doivent vivre, ils vivent dans leur cadre à eux, ils seront donc très méfiants et très critiques à l'égard de la morale des forts et des maîtres. Et c'est pour ça qu'ils valoriseront tout ce qui est humble. Mais c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas, dit Nietzsche, concevoir autre chose que cela dans leur condition d'esclave. L'humilité, donc, dit Nietzsche, c'est une vertu d'esclave, une vertu de faible, une vertu qui rationalise même sa faiblesse pour en faire une valeur. Mais le vrai bien, dit Nietzsche, est dans l'affirmation vitale, dans l'affirmation virile de la force, dans la glorification de soi. C'est fort, hein, c'est violent, c'est viril, c'est la façon dont on oppose à l'humilité la préférence pour la force. Et donc, pour Nietzsche, l'insistance chrétienne sur l'humilité n'est que la revanche des faibles qui ont déclaré mauvaises et condamnables les valeurs de vie et d'affirmation de soi pour la seule raison qu'ils en étaient privés. S'ils avaient eu ces valeurs, ils les auraient peut-être considérées, mais ils en sont privés, et donc, du coup, ils donnent cela comme les vraies valeurs. Cette morale des faibles est une résignation. C'est aussi une morale purement utilitaire, dit Nietzsche. Il faut bien trouver les moyens pour survivre dans ces limitations. C'est aussi une morale du ressentiment à l'égard des maîtres et des seigneurs. On déclare mauvais leur volonté d'affirmation, comme pour prendre une revanche morale. Voilà donc une vraie critique de l'humilité. Cette critique est violente, elle est radicale. Elle pose quand même la question de ce qui fait la vraie grandeur. Où est la vraie grandeur ? Est-ce que la vraie grandeur est dans la loi du plus fort, la loi de celui qui s'affirme ? Ou est-ce qu'elle est dans la considération de l'autre ? Est-ce qu'elle est dans l'affirmation de soi ? Ou est-ce qu'elle est dans la capacité à faire place à un autre que soi ? Ça pose aussi la question de la vraie lucidité. Nietzsche dit « il faut glorifier la force ». Est-ce qu'il y a en nous que des choses belles et fortes dont on peut se glorifier ? N'est-il pas plus lucide de reconnaître que nous avons aussi des manques et aussi des limites ? Enfin, il faut aussi évaluer cette attaque de Nietzsche aux fruits qu'elle a portés. On sait que la glorification des valeurs de force, de virilité, de supériorité, cette glorification-là, c'est ce qui a animé l'idéologie nazie et ses crimes contre l'humanité. Ils étaient portés par cette philosophie-là. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, avait dit Jésus. Et je crois qu'entre les fruits de l'humilité du Christ et ceux de l'affirmation de soi nazie, la différence est assez éclatante. Mais on a ici donc un exemple de contestation forte de l'humilité au nom de la force. Deuxième contestation de l'humilité, c'est le fait que l'on valorise plutôt la dignité que l'humilité. Certains contestent donc l'humilité au nom de la dignité humaine. Il faut ne pas accepter l'abaissement, il ne faut pas accepter l'humiliation volontaire à cause de la dignité qui constitue l'homme. Parmi les noms prestigieux qui ont défendu cela, un autre philosophe, c'est Emmanuel Kant. Alors ça, on sort aujourd'hui des grands mots, hein, des grands bons hommes. Que disait-il ? Il disait « s'agenouiller ou se prosterner jusqu'à terre, même si c'est pour se rendre sensible à l'adoration des choses célestes, est contraire à la dignité humaine. » Le fait de s'humilier, de s'abaisser, même si c'est pour élever un être plus grand que nous, le ciel, c'est quelque chose qui est contraire à la dignité humaine. La dignité humaine doit être affirmée, doit être valorisée. Et l'humilité, l'humiliation dans cette perspective sont des choses qui seraient négatives. Alors Kant reconnaît quand même qu'il y a une humilité qui est juste, et Kant insistait beaucoup sur la nécessité que l'homme moral et l'homme rationnel, l'homme qui réfléchit bien, doit être capable d'accomplir le bien. Et Kant disait, il y a une humilité qui est dans le décalage entre ce que nous pouvons faire et la loi du bien suprême qui s'impose à nous d'une certaine façon. Mais, disait-il, ce décalage, il est encore positif parce qu'il dit notre dignité humaine. On est toujours porté vers le bien qui est au-delà de nous. En tout cas, l'idée clé, c'est que l'humilité ne va pas trop bien avec la dignité humaine. Dans cette même perspective, on a relevé le fait que les Grecs, les philosophes grecs, ne valorisent pas beaucoup l'humilité. Ils valorisaient beaucoup plus la grandeur de la raison humaine. Et on sait que d'un autre côté aussi, les dieux des Grecs ne poussaient pas beaucoup à l'humilité. Ils ressemblaient tellement aux humains. Ils n'imposaient pas beaucoup de grandeur qui demande l'humilité. La question qu'il faut poser ici est de se demander si le fait de s'incliner, de reconnaître la grandeur de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, est-ce que le fait de s'incliner, est-ce que c'est vraiment une atteinte à la dignité humaine ? Ou au contraire, est-ce que ce ne serait pas plutôt une manifestation de cette dignité ? Par exemple, s'incliner devant le talent d'un Mozart ou d'un Van Gogh, est-ce s'abaisser ? Ou est-ce plutôt, n'est-ce pas plutôt, manifester qu'on a un vrai sens de la valeur des choses ? Reconnaître notre dimension limitée face à la grandeur de l'univers, reconnaître notre petitesse ou parfois notre indignité devant Dieu, est-ce manquer de dignité ? Ou au contraire, est-ce manifester un vrai sens des réalités ? Est-ce que si on ne veut affirmer que sa dignité, même là où il y a des manques et des limites, est-ce vraiment être lucide ? Est-ce vraiment être responsable ? Voilà des questions qu'il faut poser à ceux qui disent « la dignité s'oppose à l'humilité ». Troisième opposition donc à l'humilité, c'est de considérer que l'humilité finalement est une sorte de résignation. J'ai trouvé cela en lisant André Combes-Fourville qui a écrit un ouvrage sur les vertus chrétiennes. Je l'ai déjà utilisé cet ouvrage-là. Et il donne la définition de l'humilité que donne un troisième grand philosophe qui s'appelle Spinoza. Et Spinoza décrit l'humilité comme une tristesse. L'humilité, dit-il, c'est la tristesse qui naît de ce que l'homme considère son impuissance et sa faiblesse. J'étais très surpris en lisant ça. C'est la tristesse qui naît en l'homme lorsqu'il découvre son impuissance et sa faiblesse. Et donc on dit ici que l'humilité est plutôt une sorte d'état d'âme, et un état d'âme plutôt négatif, c'est une tristesse. On doit renoncer à quelque chose, on doit renoncer à quelque chose qu'on voudrait être autrement. Quelle est la cause de cette tristesse ? C'est le sentiment de notre impuissance, de nos limites. Et donc l'humilité, c'est de devoir accepter notre impuissance, devoir accepter nos limites, s'y résigner. Mais c'est dit avec un mot négatif, c'est une tristesse. Et là encore, il faut s'interroger et se dire, est-ce que l'humilité ne peut être, est-ce qu'elle ne pourrait pas être quelque chose de serein, quelque chose de satisfaisant, plutôt que d'être une tristesse ? Se voir dans la juste mesure de ce que l'on est, se voir à sa juste place, pourquoi serait-ce une tristesse ou une résignation ? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour accepter positivement et sereinement ce qu'est vraiment notre mesure humaine, simplement. Il me semble que on touche là à la question de la volonté humaine, d'être la mesure de tout. Si l'homme veut être la mesure de tout, c'est sûr que découvrir ses limites, c'est une vraie tristesse. Mais est-ce la juste manière de se positionner ? C'est une troisième question qui nous est posée par cette autre objection à l'humilité. Et puis, quatrième objection à l'humilité, c'est qu'on a souvent peur qu'elle nous mette en situation de faiblesse. On a peur qu'elle nous mette en situation de faiblesse. Si on est humble, finalement, on prend le risque d'être écrasé ou d'être utilisé par les autres. Nous vivons dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Être humble, c'est se mettre en position de vulnérabilité. Alors je vous cite une autre phrase d'Emmanuel Kant, elle est un peu étonnante dans sa bouche, il faudrait pouvoir la situer dans son contexte, mais elle dit quand même cette crainte. Elle dit « Celui qui se transforme en ver de terre ne doit pas s'étonner par la suite qu'on lui marche dessus. » Oui, ça dit bien cette peur que se mettre en situation d'humilité, qu'il dit se transformer en ver de terre, ça donne le risque qu'on nous écrase vraiment, hein, qu'on soit vraiment en situation de faiblesse. Alors je pense que dans la bouche de Kant, c'est plutôt un avertissement contre le fait de renoncer à sa dignité. Hein. Mais quand même, cela montre... il dit certainement, si tu renonces à ta dignité, ne pense pas qu'on va la respecter, cette dignité. Mais cette phrase dit en tout cas une crainte que l'on a souvent, c'est que si nous sommes humbles, nous nous exposons à nous faire marcher dessus. Et c'est le problème de la vulnérabilité de l'humilité qui est posée. Vous voyez qu'on est dans deux ordres assez différents. Quand je vous ai parlé de Jésus et de ce qu'on voit vraiment en Jésus, on a vraiment le sentiment que l'humilité, c'est magnifique, c'est quelque chose de vraiment très, très positif et que positif. Et c'est là les valeurs qui sont les nôtres. Et d'un autre côté, d'autres personnes qui y réfléchissent voient vraiment l'humilité comme un vrai problème, comme une morale de faible, comme une atteinte à la dignité humaine, comme une sorte de tristesse, de renoncement, ou comme une attitude qui nous met en situation de faiblesse. Alors maintenant qu'on a vu tout cela, on va essayer de voir comment la Bible nous présente l'humilité. Et je trouve que ça va être intéressant de laisser résonner ce qu'on a dit jusqu'à présent par rapport à la perspective biblique. Comment parler de l'humilité dans une perspective biblique, comment la fonder et comment l'envisager? Et d'abord, j'aimerais parler d'une réalité fondatrice concernant l'humilité. L'humilité première, l'humilité fondatrice lorsqu'on parle de l'homme, nous est indiquée dès les premières pages de la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se trouve dans un verset qui ne parle pas d'humilité, mais c'est quand même la valeur fondatrice lorsque l'on pense à l'humilité. Ce texte, c'est Genèse 1, versets 27 et 28, qui parle de la création de l'homme et de la femme. Genèse 1, versets 27 et 28, je vous lis ce texte, nous le connaissons bien. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu leur bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Vous me direz, mais quel est le rapport de ce texte avec l'humilité? Le fondement de l'humilité se trouve dans ces premiers mots. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. L'affirmation de la création est ce qui fonde l'humilité et ce qui donne aussi un sens à l'humilité. Dieu créa l'homme. Ça veut dire nous ne nous sommes pas posés nous-mêmes. Nous ne sommes pas la mesure de tout. Nous avons reçu la vie, le mouvement, l'être de Dieu qui nous a créés. Ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Nous le devons à Dieu qui nous l'a donné. Voulons-nous prétendre nous passer de Dieu, nous aurons beau gesticuler, nous aurons beau nous affirmer tout ce que nous voulons, le fait demeure, nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Nous dépendons de Dieu, sans lui, nous ne sommes rien. L'autonomie par laquelle nous voudrions souvent nous affirmer n'a juste pas de sens, elle est à côté de la réalité. Dieu créa l'homme, c'est ça ce que ça implique. Nous recevons tout de Dieu. Reconnaître que nous sommes créés par Dieu nous invite à une humilité fondamentale. Rien qu'en regardant à nous-mêmes, en regardant à ce que nous sommes, en regardant à ce qui nous fonde. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. C'est pour ça que je dis, ce texte-là, c'est vraiment le fondement de l'humilité et la raison de l'humilité. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette humilité va avoir des couleurs très particulières qu'il nous faut relever. La première couleur de l'humilité dans ce texte-là, dans cette perspective de la création, c'est la gratitude. La première couleur de l'humilité, c'est la gratitude. reconnaître que nous avons été créés par Dieu nous conduit à accueillir l'existence comme un don. J'ai été créé par Dieu, l'existence est un don qui m'est fait, un vrai don, avec un donateur. Bien des personnes qui ne croient pas en Dieu parlent aussi de gratitude. Ils disent, il faut dire merci à la vie, merci aux arbres, merci à toutes ces choses qui sont d'être là. Vous connaissez peut-être la chanson de Jean-Jacques Goldman, « Ma prière païenne ». « Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel trop haut pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ses merveilles. Je prie les roses, je prie les bois, les virtuoses, n'importe quoi. Je prie l'hiver quand il s'en va, l'été, les étoiles, la mer et le soleil dans ses éclats. Mais pas le ciel trop haut pour moi. » Donc il y a bien des gens qui disent gratitude, gratitude, c'est beau, la vie, le soleil, les saisons, etc. Je dis merci à tout cela. Mais gratitude sans savoir à qui adresser cette gratitude. Ce savoir créé par Dieu renvoie à une autre forme de gratitude, plus profonde, plus relationnelle. Je suis redevable à quelqu'un. Je suis redevable à son action, à sa générosité. Je me sais fondé dans mon être même par cette bonté et cette générosité. Qu'est-ce qui fait que je sois là? C'est qu'il y a eu une bonté, une générosité qui a voulu que je sois là. Et je ne me vois pas simplement comme étant là dans le monde, mais comme ayant reçu ce que je suis de la part de mon Créateur, qui lui possède toutes choses en lui-même. Vous voyez, on voit que cette marque de gratitude conduit à l'humilité, mais c'est une humilité joyeuse, une humilité positive, une humilité pleine de sens, ouverte à la relation, ouverte à la gratitude. Je me reconnais comme créature. Alors je reconnais qu'il y a une différence immense entre le Créateur et moi qui suis qu'une créature, mais cette distance infinie, elle n'écrase pas, elle ne rabaisse pas, au contraire, cela ouvre comme une sorte d'espace d'amour où je peux exister, où je peux grandir, où je peux me réaliser. Donc la première couleur de l'humilité, quand on reconnaît vraiment qu'on reçoit la vie de la part de Dieu, le Créateur, c'est la gratitude. Et c'est déjà positif, c'est déjà beau de voir cela. Sa deuxième couleur, et ça c'est très intéressant de noter, c'est que la deuxième couleur de l'humilité, c'est la dignité. C'est la dignité. Il est dit « Dieu créa l'homme », mais pas juste pour dire « Dieu est au-dessus de l'homme ». Dieu créa l'homme en son image. Il le créa en image de Dieu. Il y a ici une affirmation qui est très intéressante d'une dignité unique et d'un privilège. L'homme est un être créé en image de Dieu. C'est un être unique qui reçoit sa dignité de celui qui l'a fait. C'est un privilège. On est en image de Dieu. En même temps, c'est une limite. On n'est pas Dieu, on n'est que en image de Dieu. Il y a une limite. Je reçois ma dignité de celui qui m'a créé. Cette limite qui fait que je ne suis pas Dieu n'enlève rien à mon privilège. Au contraire, je reçois ma dignité de celui qui m'a créé. Je peux le reconnaître humblement. Mais j'accepte joyeusement cette dignité qui m'a été donnée. Il n'y a donc aucune opposition ici entre humilité et dignité. Hein, Kant qui disait « parler d'humilité, c'est enlever la dignité ». Non, pas du tout. Aucune opposition entre humilité et dignité, puisque le Dieu qui me donne la vie, qui me donne l'être, est celui qui me donne aussi ma dignité humaine. L'humilité devient un cadre dans lequel je peux vivre pleinement ma dignité humaine. Et ceci sans qu'elle me monte à la tête, cette dignité. Sans non plus que j'ai besoin de me dévaloriser d'une manière ou d'une autre. Je peux reconnaître que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à mon Créateur. Mais en disant cela, je peux aussi assumer tout ce que je suis et l'assumer avec joie, dans la gratitude, dans la simplicité. Donc la deuxième couleur de l'humilité créatrice dans la Bible, c'est vraiment la dignité. Et puis la troisième couleur de cette humilité fondamentale qui fait qu'on a été créé, c'est la mesure. Me reconnaître comme créé par Dieu, c'est accepter que ma vraie mesure, elle est là. Ma vraie mesure est là dans mon existence en tant que créature. Je suis fait, je suis constitué ainsi. Et c'est juste bienfaisant d'accepter cette réalité que j'ai été posé par Dieu, c'est Dieu qui m'a donné la vie. J'ai été posé par Dieu avec les limites qui sont les miennes, je ne suis qu'une créature, j'ai le Seigneur qui m'a donné la vie. Prétendre autre chose, c'est partir vers quelque chose qui serait irréel, vers une sorte de prétention qui irait trop loin. Et il y a possibilité de vivre cette mesure, de vivre cela d'une manière très sereine. Et un psaume qui est assez joli, qui exprime ça, c'est le psaume 131. Et c'est le psaume de quelqu'un qui reconnaît que finalement c'est beau de se considérer comme créature de Dieu dans les limites que Dieu nous a données. Je vous lis ce psaume 131, il est assez court. Il dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni les regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Vous avez vu cette image ? Je dis, voilà quelqu'un qui dit, je suis dans ma mesure, je suis calme, je n'ai pas un cœur qui regarde trop loin, qui s'enfle trop loin, les regards qui iraient vers des choses trop élevées pour moi, mais je j'habite avec sérénité cette relation qui m'est donnée. J'habite vraiment cela. Alors c'est l'image d'un enfant, hein, et avec sa mère, pour dire vraiment la sécurité, la joie, la paix qu'on a. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il dit, j'ai l'âme calme et tranquille. Il dit pas comme un petit nourrisson. Il parle pas comme un nourrisson qui serait dépendant de sa mère, qui aurait aucune autonomie. Il dit, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. C'est-à-dire un enfant qui ne dépend plus totalement de sa mère. Hein, l'enfant sevré, c'est celui qui se nourrit plus du sein maternel. Hein, donc, il y a cette idée de dire, oui, on est dans la dépendance, on est dans cet état qui est le nôtre, mais en même temps, on existe vraiment soi-même. Et il y a ce lien très beau entre humilité et dignité qui se dit aussi de cette façon-là. Alors quand on pense les choses de cette façon-là, reconnaître nos limites ne pose aucun problème. Lorsqu'on dit « oui, je suis là comme un enfant, c'est ma place », un enfant sevré qui a aussi son autonomie d'une certaine façon, mais bon, reconnaître des limites ne pose aucun problème, c'est source d'aucune tristesse, c'est source d'aucune résignation. Je sais que je suis là dans la position que Dieu a voulu que j'aie, c'est mon cadre, j'y suis bien. Et je crois qu'il y a vraiment un équilibre dans la Bible, justement, qui résout tous ces problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. L'humilité de savoir que je suis créé par Dieu est quelque chose de très positif dans la Bible. Et ça permet de se poser vraiment très, très sereinement là où on en est, avec ses limites et avec ses possibilités. Et j'aimerais juste citer deux textes qui l'illustrent très bien. Le premier texte, c'est le psaume 139. Le psaume 139, c'est un psaume où le croyant dit à Dieu, « Mais Seigneur, tu connais tout de moi. Tu as tout fait, tout ce que je suis depuis le début à la fin, tu le connaissais déjà à l'avance. Tu sais le détail, je te dois tout. » Est-ce que c'est quelque chose qui est dévalorisant ? Pas du tout. C'est quelque chose qui est dit avec confiance. Et en disant ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il reconnaît tout ce que Dieu lui a donné et dit, mais je te loue, ô Dieu, que je suis une créature aussi merveilleuse. Donc dire, oui, je dépends de Dieu totalement, je suis dépendant de lui, c'est vrai d'un côté. Et d'un autre côté, ça permet de dire, mais Seigneur, merci de ce que tu m'as fait de manière si riche. Merci de ce que je suis une créature aussi merveilleuse que ce que je suis. Je ne sais pas si ça vous arrive de dire ça, mais c'est dans la Bible. Nous sommes invités à prier comme ça, à reconnaître tout ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est très apaisant. C'est une humilité très apaisante. L'autre psaume qui est intéressant ici, c'est le psaume 8, qui nous situe dans l'ensemble de la création. Il dit, quand je regarde le ciel, tout ce que tu as fait, et quand je regarde à ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Hein? Alors, c'est vrai qu'on est dans une attitude d'humilité en disant, je suis créé, je suis au milieu de toute la création de Dieu qui est immense. Qu'est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je suis pour que tu prennes garde à moi, pour que tu prennes soin de moi? Hein? Et il y a cet intérêt de Dieu pour nous qui se manifeste ici. Et donc, il y a là la gratitude et l'émerveillement qui jaillissent, et non pas un sentiment d'écrasement. L'humilité de notre condition de créature permet de vraiment faire jaillir la gratitude. Elle n'écrase pas. Donc c'est un premier point sur le fondement de l'humilité. Et je voulais le souligner parce que ça donne un côté très serein à l'humilité. Hein, nous pouvons vivre cela sereinement dans la gratitude, en acceptant simplement que Dieu nous a créés comme il nous a créés. Et c'est vraiment bienfaisant. Ce qui m'amène deuxièmement à faire une distinction importante, c'est faire la différence entre humilité et humiliation. La différence entre humilité et humiliation. Cette différence, cette distinction est très importante. Être humble, cela ne veut pas dire se rabaisser. Être humble, cela ne veut pas dire se dévaloriser. Être humble, au contraire, cela veut dire tenter d'aller vers la juste mesure de ce que l'on est. Je crois que c'est vraiment important de faire cette différence entre humilité et l'humiliation. L'humiliation, c'est dire qu'on est tout petit, c'est se rabaisser d'une certaine façon. Hein. Je crois que l'humilité n'est pas systématiquement dans l'humiliation. L'humilité, c'est reconnaître la place de Dieu comme notre Créateur, comme notre Seigneur, nous l'avons dit. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. On reconnaît sa juste place. L'humilité, c'est reconnaître ensuite, me semble-t-il, que tout ce que nous avons, de reconnaître que tout ce que nous avons qui est un don, qui est une gratuité dans notre vie. L'apôtre Paul pose à un moment donné une question et dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. Et je crois qu'il faut dire que la vraie humilité, elle ne se construit pas sur le fait de dire « je ne suis rien ». Mais la vraie humilité, elle se construit dans la conscience de tout ce que j'ai reçu. Qu'est-ce qui me rend humble? C'est de me rendre compte que dans la vie, il y a tellement de choses qui sont cadeaux. Tant de choses essentielles qui sont cadeaux et qui sont juste gratuites. Réfléchissons à ça. Qu'est-ce qui fait que les essentiels de la vie, les essentiels de la vie, ce sont des dons qui ne dépendent pas de nous. La santé, l'amour, les capacités personnelles que nous avons, capacités mentales, etc. Tant de choses reposent sur des dons, sur la gratuité. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, qu'avons-nous que nous n'avons reçu? C'est vraiment quelque chose de fondamental dans la façon dont on voit l'existence. Et je dirais que c'est mesurer cela qui nous rend petits, qui nous rend humbles. Mais ce n'est pas s'obliger à dire « mais je ne suis rien du tout ». C'est plutôt de voir combien tant de choses que nous avons sont des dons. Tant de choses reposent sur la gratuité. Alors bien sûr, il y a aussi nos efforts qu'on peut faire pour se battre, pour acquérir telle ou telle chose, telle ou telle situation. Mais il faut bien se rappeler que si on peut faire des efforts, c'est parce qu'on a reçu par derrière toutes les capacités qui nous permettent ces efforts. Et ça reste vrai de dire que qu'as-tu que tu n'aies reçu, une gratitude pour tout ce que nous avons reçu. Et je crois que nous avons à développer très profondément cette reconnaissance. C'est ça ce qui amène l'humilité dans la perspective biblique, développer la reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu, pour tout ce que nous recevons. Et cela, c'est quelque chose de positif, ça ne dévalorise pas, ça dit ce que je suis. Et ça dit une reconnaissance, ça dit vraiment que c'est un don. Mais en disant, oui, je suis ce que je suis, je dis en même temps, je ne suis pas ce que je suis à cause de moi, je suis ce que je suis à cause de ce qui m'a été donné. Et il faut vraiment garder cette ligne-là, elle est très importante. Et si elle est vraie pour la création, elle est vraie encore plus pour tout ce qui concerne le salut. Qu'as-tu que tu n'aies reçu en ce qui concerne le salut? Nous savons que si nous sommes acceptés, acceptables par Dieu, c'est vraiment parce que Dieu a tout fait, parce qu'il nous a tout donné. Je ne sais pas je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, comme nous le chantons. Et il y a un émerveillement, mais c'est un émerveillement d'humilité. C'est comme ça que l'on construit l'humilité. Et c'est ici qu'il faut dire justement que l'humilité n'est pas l'humiliation. Il arrive que l'humiliation soit le chemin nécessaire pour arriver à l'humilité. Mais ce serait une erreur d'identifier les deux. Quand faut-il s'humilier? Il me semble qu'il y a deux types de situations où il faut s'humilier. Il faut aussi s'humilier quand on a cédé à l'orgueil. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si je me prends pour ce que je ne suis pas, si j'ai cédé à l'orgueil, là, il faut que je m'humilie, il faut que je revienne à ma juste mesure. Mais s'il faut revenir à ma juste mesure, c'est pas parce que, en soi, je devrais me rabaisser, mais c'est parce que je me suis trop gonflé, je me suis trop enflé, et c'est pour ça qu'il faut revenir à la réalité des choses. Il est important donc de savoir, oui, nous humilier lorsque nous avons cédé à l'orgueil. Il faut s'humilier aussi, deuxième raison, lorsque l'on a commis le mal. Là, s'humilier veut dire reconnaître le mal que l'on a fait, le regretter devant Dieu et ne pas chercher à se justifier à tout prix. Et bien des textes parlent de s'humilier dans ce contexte-là, où on a fait le mal. Mais en disant « je dois m'humilier quand j'ai fait le mal », ça ne veut pas dire « je dois me dévaloriser en tant que tel ». Ça ne veut pas dire « je dois m'abaisser pour m'abaisser simplement » ou parce que Dieu me veut toujours abaisser. Je dois m'humilier simplement parce que j'ai fait le mal et dans la mesure où j'ai fait le mal. Et d'ailleurs, reconnaître que j'ai fait le mal, c'est reconnaître la vérité des choses, c'est de ne pas être dans le déni. Vous voyez donc, quand on s'humilie, on porte un regard négatif sur ce que l'on a été, sur ce que l'on a fait, sur soi-même, mais c'est sur soi-même parce qu'on a fait du tort, et dans la mesure où on a fait du tort. Et il ne faut pas aller au-delà de cela. Certains chrétiens, me semble-t-il, ne respectent pas cette limite. Et il y a des chrétiens qui pensent que Dieu nous demande d'être sans cesse dans la dévalorisation de nous-mêmes, pour être sûr qu'on reste bien à sa place, pour être sûr qu'on ne cède jamais à l'orgueil, jamais le droit de dire quelque chose de bien sur nous-mêmes, jamais le droit de penser quelque chose de bien sur nous-mêmes, parce que, oulala, on risque de céder à l'orgueil, oulala, et l'humilité là-dedans. Certains chrétiens pensent vraiment comme cela. Et ça donne une idée, me semble-t-il, tout à fait fausse de l'humilité et du Dieu qui veut que nous marchions humblement avec lui. Marcher humblement avec Dieu, ce n'est pas nous dévaloriser, ce n'est pas nous accuser sans cesse, c'est être prêt à reconnaître ce qui n'est pas bon chez nous, c'est être prompt à nous remettre en question là où il le faut, mais c'est aussi vivre en acceptant sereinement, joyeusement, les limites qui sont les nôtres, et vivre surtout dans la gratitude pour tout ce que Dieu nous a donné, pour tout ce que Dieu a fait, pour les progrès qu'il permet dans notre vie, pour la beauté de ce que nous sommes parfois par sa grâce. Donc la clé de l'humilité n'est pas dans la dévalorisation de soi, elle est dans le désir d'avoir un regard juste sur soi-même et dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné. Et je crois que c'est important de nous dire que Dieu ne veut pas que nous soyons courbés devant lui. Ce n'est pas ça ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas des gens courbés devant lui. Dieu aime des gens qui sont debout devant lui. Je vais vous lire deux textes ici. Un texte d'Ésaïe 58, verset 5, où il est question du jeûne, donc de l'attitude spirituelle qui plaît à Dieu. Ésaïe 56, verset 5 dit « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ?» Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et sur la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et c'est une question dont la réponse est non. Les gens ils jeûnaient, ils disaient, oui, Dieu veut qu'on s'humilie, qu'on soit triste, qu'on soit comme ça, qu'on soit comme ça. Et Isaïe leur dit, est-ce que c'est ça que Dieu aime pour vous? Vous croyez que Dieu vous aime courbé? Pas du tout, pas du tout. Quelle est la façon dont Dieu nous aime? Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le serviteur de l'Éternel, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Donc, c'est important de nous dire, le projet de Dieu, c'est jamais de nous garder courbés. Et l'humilité, il n'y a pas aucune vertu en soi à rester courbé comme cela. Ce qui est important, c'est de vivre la vie que Dieu nous a donnée sous le regard de Dieu, dans la reconnaissance. Mais c'est l'homme debout que Dieu aime et l'homme conscient de la grâce qu'il reçoit en Jésus-Christ. Dieu résiste aux orgueilleux, oui, les orgueilleux qui eux-mêmes disent « oui, c'est moi qui ai tout, c'est moi qui suis tout », ceux-là, Dieu va leur résister. Mais Dieu fait grâce aux humbles, à ceux qui se reconnaissent tels qu'ils sont. Alors maintenant, une fois qu'on a dit cela, quelques contours de l'humilité chrétienne. Qu'est-ce que l'humilité chrétienne, l'humilité du peuple de Dieu ? C'est d'abord marcher avec Dieu, marcher humblement avec Dieu. L'humilité chrétienne, c'est d'abord un positionnement. Nous considérons notre vie comme une marche avec Dieu, une marche où nous reconnaissons Dieu comme notre Seigneur, notre Sauveur à qui nous devons tout. Ce sera une humilité de respect et d'obéissance. Nous acceptons que Dieu nous dise ce qu'il attend de nous et nous voulons nous conformer à sa manière de voir. Mais ce respect et cette obéissance, nous les vivons dans l'amour. Nous confessons que Dieu est le Seigneur, qu'il est l'unique, et que lui sont dus au degré suprême la confiance, l'obéissance, la reconnaissance, l'amour, la louange. Et cette attitude-là, elle ne rabaisse pas. Elle est juste notre vraie place, c'est notre juste place. Nous avons été créés pour cette dépendance, pour ce respect dans l'amour, et nous avons un Dieu riche en bonté, pour ceux qui s'approchent de lui. Et c'est pour ça qu'on peut vivre, marcher humblement avec Dieu, c'est quelque chose de très harmonieux, parce que cela peut se vivre dans l'amour. Deuxième chose, c'est qu'il y a quand même parfois des situations où le peuple de Dieu apprend, est à l'école de l'humilité et à l'école de la dépendance. Nous choisissons une attitude d'humilité quand nous disons nous voulons marcher humblement avec Dieu, mais nous ne choisissons pas toujours. Il arrive que des situations particulières nous font éprouver plus encore notre petitesse, notre humilité, notre besoin de Dieu, notre dépendance. Dans l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a permis qu'il y ait des moments plus exigeants, qu'il y ait des moments de désert, des moments de dénuement, des moments de défaite, des moments d'exil, de maladie, de faiblesse. Et ces moments sont particuliers parce qu'ils nous font nous rendre compte et sentir de manière toute spéciale et bien profondément notre besoin de Dieu. Et ça nous conduit à une humilité qui est faite de dépendance, qui est faite d'appel de Dieu, de besoin de lui et de son action. L'expérience d'Israël au désert est certainement assez significative de cela. Lorsque Moïse en parle, lorsqu'ils sont au terme de la traversée du désert après la sortie d'Égypte, voilà ce qu'il dit, Deutéronome 8, versets 2 à 5. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Il est question ici de dire que Dieu humilie, le Seigneur t'a humilié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ici, Dieu t'a mis dans une situation exigeante où tu as vraiment ressenti très fortement ta dépendance de lui. Mais dans cette situation exigeante, qu'as-tu découvert ? Tu as découvert non pas un Dieu qui te garde comme ça courbé, mais un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui soutient, un Dieu qui te donne le nécessaire, qui veille à ce que tu puisses traverser cela. Dans cette dépendance, il y avait aussi un travail de formation, un travail d'éducation. Et là, on voit le fait que Dieu, parfois, oui, choisit de permettre des situations exigeantes. Il nous humilie dans ce sens-là, Il nous met à l'école de la dépendance. Mais ce n'est pas une dépendance qui nous enlève notre dignité, c'est une dépendance où l'on va découvrir justement qu'il est un Dieu de fidélité, qu'il est notre berger, celui où nous ne manquerons de rien, et qu'il pourvoit vraiment à cela. On trouve un autre exemple dans ce sens-là dans le livre de Sophonie. Le prophète Sophonie envisage la situation de l'exil et le fait que beaucoup partiront en exil. Et il dit « Il restera en Juda un peuple tout petit, un peuple humble, un peuple qui n'a plus grand-chose, qui sera dans le dénuement. » Et il appelle ces gens-là les humbles du pays parce qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose. Et ces gens-là sont humbles d'abord à cause de leur situation objective, parce qu'ils sont dans le dénuement, toute la gloire passée de Jérusalem n'est plus là, ils n'ont pas grand-chose. Mais en même temps, ils sont appelés à devenir humbles d'une autre façon, non seulement parce que ça leur est imposé par les circonstances extérieures, mais ils sont appelés à devenir humbles de cœur et à être des gens qui, dans cette situation de dénuement, trouvent leur refuge dans le Seigneur. Et là, on a une autre vision de l'humilité, qui est cette humilité de cœur qui consiste à trouver son refuge dans le Seigneur, à mettre toute son attente en Dieu. Et c'est très intéressant de voir que dans le livre de Sophonie, ce jeu entre les deux humilités. Sophonie 2, verset 3. « Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. » C'est ce que nous avons lu. Ils sont les humbles du pays, mais il leur dit « Recherchez la vraie humilité. » L'humilité qui consiste à chercher tout votre refuge en Dieu, à mettre votre attente en Dieu. Et au chapitre 3 et au verset 12, il est dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. » Il trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Et je crois que quand même, il y a pour nous aussi, dans notre vie chrétienne, une école de l'humilité. Dieu parfois nous amène dans des chemins où nous avons des circonstances extérieures qui nous rendent très dépendants de lui. Et cette école d'humilité, c'est apprendre vraiment au travers des différentes situations de vie que nous connaissons, apprendre vraiment la dépendance, apprendre l'attente de Dieu et apprendre à trouver son refuge dans le nom de l'Éternel. Mais en même temps, l'école de l'humilité et de la dépendance, ça ne passe pas que par les moments difficiles. L'école de l'humilité et de la dépendance, ça passe aussi par la vie concrète où vraiment on vit avec Dieu. Nous avons lu tout à l'heure le début du psaume 23. Ça parle aussi d'une dépendance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, lui, dans les sentiers de la droiture, de la justice. Et la dépendance de Dieu, l'humilité, c'est aussi de vivre dans la vie la plus ordinaire au quotidien, vivre près de Dieu, vivre avec lui, découvrir vraiment comment Dieu nous veille sur nous, comment Dieu pourvoit à nos besoins, comment Dieu nous conduit, comment Dieu nous instruit. Et là, c'est la marche de chaque jour qui devient une marche dans l'humilité, où vraiment on découvre les ressources de Dieu, où l'on découvre tout ce que Dieu veut être pour nous. Vous voyez, le peuple de Dieu est appelé donc à découvrir ces ressources de l'humilité par les circonstances qu'il traverse, mais à le faire aussi dans la marche quotidienne avec le Seigneur. Troisième orientation de l'humilité, c'est l'humilité dans nos rapports mutuels. L'humilité dans nos rapports mutuels. La Bible ne parle pas simplement de l'humilité dans notre rapport avec Dieu, elle nous propose aussi, elle nous invite à vivre dans l'humilité dans nos relations les uns avec les autres. Et ça, on y insiste très fortement dans le Nouveau Testament. C'est certainement la façon dont Jésus s'est manifesté qui détermine cela. Je vous lis plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, qui nous invitent à l'humilité dans nos rapports mutuels. Romains 12, verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Philippiens 2, versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et on pourrait vraiment citer beaucoup d'autres textes dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on voit ici ? L'humilité est ici clairement une attitude relationnelle. C'est dans mes relations avec l'autre que je vais vivre dans l'humilité, manifester l'humilité. Et je dirais que s'il fallait résumer ce qu'est l'humilité comme valeur relationnelle, ça consiste à veiller à faire une vraie place à l'autre. Veiller à faire une vraie place à l'autre. Veiller à ne pas vouloir être soi-même l'unique centre d'intérêt autour duquel tout tourne. Veiller à ne pas occuper soi-même tout l'espace en permanence. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, c'est veiller toujours à faire une place à l'autre, à lui laisser un espace, à lui donner une attention, à être prêt à agir pour lui. Veiller à son bien, veiller à son intérêt, veiller à sa place, veiller à son bonheur. Ça, c'est vraiment l'orientation, laisser une place à l'autre. L'humilité relationnelle ne veut pas dire que nous nous dévalorisons nous-mêmes. Là encore, il faut le souligner. Mais au contraire, ça nous demande d'utiliser toutes les ressources qui sont les nôtres pour le bien et pour le profit de l'autre. Regardez ce qu'a fait Jésus. Jamais Jésus ne s'est dévalorisé. Mais tout ce qu'il avait de meilleur, il l'a mis pour faire une place à l'autre. Il l'a mis au service de l'amour. Et c'est ainsi que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre cette humilité relationnelle, utiliser tout ce que nous avons avec la confiance en ce que Dieu nous a donné, mais pour faire une place à l'autre, pour le bien des autres. Paul nous invite à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que les autres ont toutes les qualités et que nous, on a tous les défauts. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut dire les autres supérieurs à nous-mêmes. Ce n'est pas se dire lui ou elle, oh, qu'ils sont magnifiques et moi je suis rien du tout. Quand Paul dit « considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même », c'est dans un sens pratique que Paul le dit. Ça veut dire, il explicite dans le verset suivant, que chacun ne considère pas simplement ses propres intérêts, mais qu'il considère d'abord les intérêts des autres. C'est dans ce sens-là qu'il faut considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Je considère le bien de l'autre comme plus important que mon bien. Je considère que l'intérêt de l'autre peut être plus important que mon intérêt à moi. C'est pratique, c'est concret. Et ce n'est pas se dévaloriser soi-même. Donc considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est une vraie humilité. Et on a besoin de cette humilité pour avoir des relations harmonieuses les uns avec les autres. L'humilité, la vraie, c'est à l'image du Christ, fait une place à l'autre. Et elle nous décentre un petit peu de nous-mêmes et ça permet une vraie relation et des relations harmonieuses qui laissent une vraie place à la relation et à chacun. Dernière remarque, elle sera courte. Est-ce que être humble nous amène à risquer d'être écrasé par les autres ? L'humilité risque-t-elle donc de nous transformer comme disait Kant, celui qui se transforme en ver de terre ne doit pas s'étonner qu'on lui marche dessus. Je pense qu'on a quand même assez clairement montré que l'humilité chrétienne ne consiste pas à se transformer en ver de terre. L'humilité chrétienne est une reconnaissance de la dignité que Dieu nous a donnée et une manière de mettre en œuvre toutes nos capacités pour le bien de l'autre. Donc il ne s'agit déjà pas de se transformer, de se rabaisser d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que le risque est là, qu'à se rendre humble, on se rende un peu vulnérable. Mais il vaut quand même la peine de se demander ce qu'est la vraie grandeur. Est-ce que la vraie grandeur, c'est de se blinder pour être invulnérable? Ou est-ce que c'est accepter la vulnérabilité de l'amour, du respect de l'autre, de l'attention à l'autre? Assez clairement, Le Seigneur Jésus oriente nos valeurs du côté de la vulnérabilité de l'amour. Il faut accepter l'amour qui se rend vulnérable, parce que c'est seulement ainsi que l'amour peut vraiment se manifester. Tout en sachant aussi qu'un certain nombre d'attitudes d'humilité ne vont pas conduire les autres à écraser, mais au contraire à respecter. Pensez à l'abbé Pierre, à tous ses engagements du côté des plus faibles. Il a choisi d'être du côté humble, du côté des faibles, mais respect de tout le monde à son égard. Il ne faut surtout pas croire que l'humilité, la vraie humilité de l'amour, soit quelque chose qui ne force pas le respect par moment. Il nous faut avoir confiance dans la force de l'humilité. Quelle est la force de l'humilité ? La force de l'humilité, d'abord, c'est sa vérité. C'est sa vérité. Une personne vraiment humble, c'est une personne qui est vraie. Le fanfaron n'est pas dans la vérité. Le fanfaron s'enfle. Et tôt ou tard, ceux qui donnent une image d'eux-mêmes qui ne correspond pas à leur réalité, tôt ou tard, ces ballons-là vont se dégonfler. Et nous avons à tenir compte sur la force de l'humilité qui est une attitude d'être vrai par rapport à soi-même. La deuxième force de l'humilité, c'est la relation. Les gens humbles, les gens simples, les gens vrais dans leur relation sont des gens qui sont appréciés. L'humilité qui laisse la place à l'autre permet de construire des ponts relationnels, permet de construire des amitiés, des complicités, un partage. Et il faut compter, nous devons compter sur cette force relationnelle de l'humilité qui laisse la place à l'autre et qui permet le développement de relations. Et puis troisièmement, dans la vie spirituelle, la force de l'humilité, c'est que Dieu la valorise et que Dieu se porte le garant des humbles et que Dieu a des promesses pour ceux qui marchent dans l'humilité. Quelques textes, et je termine par là. Job 5, verset 11. Dieu relève les humbles, il délivre les affligés. Psaume 25, verset 9. Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il fait la différence. Proverbe 3, verset 34. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Vous voyez que quand même tous ces textes nous disent de manière forte que notre Dieu veut valoriser l'humilité. Il délivre les affligés, il relève les humbles, il les conduit dans la justice, il nous voit, il fait grâce aux humbles. Et c'est ça ce qui doit nous donner confiance, Nous sommes invités à compter sur ses promesses, à vivre dans l'humilité, à marcher humblement avec notre Dieu et nous découvrirons que Dieu sera aussi avec nous et qu'il donnera force à cette attitude d'humilité et d'ouverture. Voilà ce que je voulais essayer de dire avec ce parcours balancé entre deux conceptions, hein, ces objections et la façon dont, me semble-t-il, la perspective biblique nous permet de considérer l'humilité de manière positive et très sereine. Est-ce que vous auriez éventuellement une question ?